Et nous allons maintenant revenir au XXIe siècle pour nous poser ensemble cette question. Pourquoi Flaubert est-il toujours actuel aujourd'hui? Pour en parler, nous avons donc cinq invités qui se trouvent parmi nous, à la fois des élus de Normandie et puis également des chercheurs qui travaillent sur le personnage et l'œuvre de Flaubert. Nous avons donc Madame Catherine Morin de Sailly, sénatrice de Seine-Maritime, Monsieur Yvan Leclerc de l'Université de Rouen et qui préside le comité scientifique et culturel Flaubert 21, Gisèle Séjinger, professeure à l'Université Gustave Eiffel, Anne Hergeberg-Pierrot, professeur à l'Université Paris 8, et Bertrand Bélanger, président du département de Seine-Maritime. Nous allons commencer par vous, Catherine Morin de Sailly. Cette année a été riche en événements sur votre territoire et nous en sommes à mi-parcours parce que le programme se poursuit en Normandie jusqu'en juin 2022. Peut-être rapidement, pourriez-vous nous dire quelle empreinte Flaubert a-t-il laissé dans cette région?
Il a laissé une empreinte très importante. J'aurais peut-être dire en préambule, sous cette coupole où siégea Pierre Corneille, le fauteuil 14, je crois savoir, Flaubert s'inscrit dans la lignée de grands écrivains en Normandie. La Normandie est une terre d'écriture et nous sommes très fiers de dire qu'elle a compté des écrivains qui y sont nés ou qui ont vécu suffisamment longtemps pour marquer leur empreinte. On pourrait citer également Guy de Maupassant, Victor Hugo, Marcel Proust, dont on célébrera l'année prochaine le centenaire de la mort. Mais revenons à Flaubert, c'est un des plus grands, c'est celui qui est peut-être le plus traduit aussi au monde. Quand on évoque Flaubert à l'étranger, aussitôt, cela résonne. Son empreinte, d'ailleurs, se traduit par son inscription un peu partout en Normandie, mais pas seulement. Beaucoup d'édifices, des établissements scolaires portent le nom de Flaubert. Et je vais vous confier une anecdote. Quand j'étais adjointe à la culture du maire de Rouen, Pierre Albertini, dans les années 2010, c'est qu'il s'est agi de baptiser le 6e franchissement de la Seine qui venait d'être achevé. Eh bien, une large consultation a été faite auprès des Rouennaises et des Rouennais, et le nom qui est le plus revenu, cher Bertrand Bélanger le sait très bien, c'est le nom de Gustave Flaubert. Donc cette empreinte, elle est très forte aussi parce que l'écriture de Flaubert s'inspire de notre Normandie, de ses paysages, de la société contemporaine à Flaubert. Elle a inspiré aussi de grands cinéastes. Voilà, la ville de Lyons-la-Forêt a été marquée par le tournage de films de Jean Renoir, de Claude Chabrol. Donc tout ça fait que l'empreinte est forte et elle est entretenue par aussi les amoureux de Flaubert. Je voudrais ici saluer les amis de Flaubert et Maupassant qui portent la flamme de Flaubert, dont notre ami Yvan Leclerc, et puis notre université de Rouen-Normandie, qui bien sûr a créé et fondé le centre Flaubert. Tout ça fait que l'empreinte, elle est extrêmement forte.
Alors cela fait quelques mois que ce bicentenaire est célébré sur place avec de nombreux événements. Est-ce que la mobilisation, et notamment du public, a répondu à vos attentes? Comment les gens ont-ils réagi?
Comme l'ensemble de mes collègues ici présents, qui s'est tous beaucoup impliqués, les collectivités territoriales, nous étions 11 collectivités territoriales à travailler ensemble, on peut tous témoigner que la mobilisation a été immédiate et extrêmement importante en dépit de la pandémie et de la crise sanitaire qui nous a fait décaler un petit peu la programmation dans le temps. Mais bien entendu, on n'a pas encore les chiffres, mais tous les événements qui se sont déroulés ont fait l'objet d'une forte fréquentation.
Le public est au rendez-vous. Alors, Yvan Leclerc, c'est vous qui présidez ce comité qui a étudié une multitude de projets. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée du foisonnement d'initiatives qui ont été prises et peut-être de quelques belles découvertes que vous avez pu faire avec de nouvelles approches de Flaubert?
Oui, quand les collectivités normandes, dans leur diversité, ont fondé le Flaubert 21 et leur comité de pilotage, ils ont confié effectivement à un comité scientifique et culturel la tâche de rendre cette manifestation à la fois populaire et exigeante. Exigeante par la justesse de l'information, par le contrôle de la documentation et en même temps populaire parce qu'il s'agit de s'adresser à tous les publics et en particulier au public jeune. On a pensé à ceux qui allaient profiter de cette occasion pour découvrir Flaubert, les collèges, les lycées. Je voudrais saluer l'engagement à la fois des départements vis-à-vis des collèges et de la région vis-à-vis des lycées. Il y a beaucoup d'actions pédagogiques qui ont été menées en direction de ce public. L'université également a mis en place de nombreux projets. Et en particulier, on a pensé à multiplier les voies d'accès à Flaubert par des moyens qui sont des moyens numériques, par exemple, qui parlent beaucoup plus aux jeunes. On a pensé aussi à ceux qui avaient croisé Flaubert lorsqu'ils étaient jeunes, qui n'en ont pas forcément gardé un bon souvenir parce que c'était des exercices scolaires imposés sous forme d'explications de textes ou de dissertations. Et on s'est dit que cette année allait être l'occasion de redécouvrir les textes de Flaubert d'une manière en liberté et avec plaisir. Par ailleurs, on a été enchantés de voir que sur les 250 projets qui nous ont été soumis au départ, quand on a commencé à travailler il y a un an et demi, on s'est dit on va avoir une vingtaine de projets. En fait, on en a eu 250, on en a labellisé 220 environ. Et sur ces projets, ce qui nous a intéressé, c'est à la fois la diversité des lieux dans lesquels ces événements se produisent, dans 600 lieux à peu près en Normandie et au-delà, et aussi le fait que toutes les œuvres de Flaubert étaient abordées d'une manière ou d'une autre. Évidemment, Madame Bovary plus que les autres, parce que Madame Bovary, c'est trois fois normand, par la biographie de Flaubert, par le lieu de la fiction et aussi par le lieu où le manuscrit est conservé. Mais aussi, toutes les œuvres de Flaubert sont représentées dans leur diversité. Il y a un Flaubert difficile, il y a un Flaubert facile d'accès. C'est celui d'un cœur simple qu'on lit en collège, c'est celui de Madame Bovary qu'on étudie quand on est au lycée. En revanche, Salammbô, La Tentation de Saint-Antoine, Hérodias, ce sont des textes plus difficiles. Eh bien, même ces textes-là, on a trouvé des moyens un peu neufs, un peu originaux pour les rendre accessibles. Et puis, il y a quelque chose qui s'est ouvert aussi beaucoup au public, c'est la correspondance, qui est une mine absolument extraordinaire, qu'on peut lire presque de 7 à 77 ans, en tout cas de 9 ans, puisque c'est l'âge auquel Flaubert commence à écrire ses premières lettres, jusqu'aux dernières. Et quand on entre dans les 4500 lettres conservées de Flaubert, on a toujours quelque chose à y découvrir.
C'est d'ailleurs des extraits de ces lettres que nous allons entendre tout à l'heure. Catherine Morin-Desailly, pour vous, en quoi Flaubert est-il contemporain? Pourquoi est-ce qu'il nous parle aujourd'hui?
Pourquoi il est moderne, c'est ça ce que vous voulez dire? Je pense que Flaubert, c'est le trait d'union entre deux mondes, peut-être un monde plus classique, le monde plus contemporain. On peut considérer que Madame Bovary et Un cœur simple sont des romans classiques en ce qu'à l'époque ils étaient considérés classiques et qu'ils s'inscrivent depuis toujours dans les programmes un petit peu incontournables pour nos collégiens, nos lycéens, mais en même temps ils sont modernes. En tout cas, Madame Bovary est moderne parce que, et l'écriture de Flaubert est moderne parce que les mouvements littéraires qui ont suivi se revendiquent de cette modernité, que ce soit les réalistes, les naturalistes ou encore le nouveau roman. La comparaison a été faite tout à l'heure par M. Brunel entre Flaubert et Baudelaire. On peut dire que Les Fleurs du Mal et Madame Bovary, qui paraissent en même temps, qui font l'objet du même scandale, sont des chefs-d'œuvre d'abord, et des romans qui ont des œuvres qui ont considérablement bouleversé par la suite le mouvement littéraire. Et j'y associerai finalement Marcel Proust avec La Recherche du Temps Perdu, encore une fois, qui est un contemporain. En cela, ils sont vraiment modernes de par les thématiques abordées, mais aussi, je pense, l'écriture. Je ne suis pas une grande spécialiste, il y a des grands chercheurs, des grands universitaires ici qui peuvent le dire, mais les thématiques sont très modernes. Isabelle Huppert, notre présidente d'honneur, évoquait la modernité du roman de Madame Bovary, qu'elle a magnifiquement interprété au cinéma, et elle était en résonance avec Emma, nous disait-il, parce que Emma, c'est en fait une femme qui se bat pour être libre de ses choix à une époque où elle était passée de l'autorité du père, très jeune, à celle de son mari. Et dans ce contexte, elle avait besoin d'exprimer sa liberté. On peut retrouver aussi tout cela aujourd'hui. Ça résonne aussi avec notre monde contemporain.
Quel est votre livre préféré de Flaubert ?
J'aime beaucoup l'éducation sentimentale.
D'accord. Yvan Leclerc, vous nous avez évoqué cette correspondance de Flaubert et l'édition numérique de cette correspondance, comme des manuscrits de cette correspondance, comme d'autres manuscrits, a été assurée par l'Université de Rouen. Est-ce que vous pouvez nous dire quel rôle joue l'Université de Rouen dans toutes les recherches qui se font aujourd'hui autour de Flaubert?
Alors, évidemment, il y a une longue tradition de recherche universitaire sur Flaubert à Rouen. Elle remonte dans les années 60 à Marie-Claire Brancard, que nous n'avons pas oubliée, même si elle est plus connue pour ses éditions et ses travaux sur Maupassant ou Anatole France. Le Centre Flaubert a été créé il y a 30 ans. Et il y a 20 ans, exactement 20 ans, on a ouvert le site Flaubert. Le chancelier Darcos le qualifiait tout à l'heure d'extraordinaire. C'est un compliment qui s'adresse à un collectif, dans la mesure où c'est un site collaboratif, comme on dit, qui a pu se développer grâce au soutien de l'université et Annelies Worms, que je remercie pour le soutien indéfectible de cette institution, de même que les collectivités locales, la ville de Rouen et la région sans laquelle nous n'aurions pas pu développer, en particulier les éditions numériques de dossiers manuscrits, puisqu'on peut consulter classé, transcrit et par ordre génétique l'intégralité du manuscrit de Madame Bovary conservé à Rouen, 4500 pages, l'intégralité du roman Bouvard et Pécuchet et la correspondance récemment. J'ai regardé les chiffres, Monsieur Darcos, vous parliez tout à l'heure des lettres qui sont conservées essentiellement dans la collection Louvain-Joule. Sur les 6941 lettres, je regarde mes chiffres pour être précis, de Flaubert et à Flaubert, 3389, c'est-à-dire près de la moitié, sont conservés dans le fond à la bibliothèque de l'Institut. Et donc, ces manuscrits sont consultables à la fois dans la base de données Minerva de l'Institut et aussi sur le site de l'université, les deux sites étant complémentaires dans la mesure où ils sont destinés à des usages très différents.
Aujourd'hui, quels sont les sujets qui intéressent les étudiants et les jeunes chercheurs autour de Flaubert?
Je pourrais difficilement vous répondre parce que je suis déjà à la retraite depuis 6 ans. Mais je peux vous dire que Flaubert est toujours évidemment enseigné et que c'est un objet de recherche constant. Flaubert n'a jamais connu... Enfin, il a connu un petit purgatoire au début des années, à la fin du 19e peut-être, encore que Salammbô, La Tentation de Saint-Antoine, Hérodias étaient évidemment des œuvres phares de ce qu'on appelait la littérature fin de siècle, la littérature décadente ou symboliste. Après, il a été trop confondu par malentendu avec le réalisme et du coup, il a été redécouvert après par les nouveaux romanciers. Mais maintenant, c'est l'un, avec Proust, avec Balzac, avec Céline, c'est l'un des romanciers sur lesquels il y a le plus de thèses et de travaux et de publications universitaires. Moi-même, j'essaie de tenir à jour un bulletin d'information sur Flaubert. Je n'ai pas le temps de lire l'intégralité de ce qui se publie sur Flaubert. Ce n'est pas possible. Je peux juste lire les titres et les enregistrer et les transmettre. De temps en temps, quand même, une œuvre complète, un ouvrage complet.
Eh bien, cela tombe très bien parce que nous allons nous intéresser maintenant à l'actualité éditoriale de Flaubert. Avec vous d'abord, Gisèle Séjinger, vous avez dirigé la nouvelle édition de Salammbô et de la Tentation de Saint-Antoine qui sont parus cette année. Mais nous allons maintenant surtout parler d'un beau livre que vous avez écrit, qui est richement illustré, L'Orient de Flaubert en images. Et ce livre nous fait voyager. D'abord, est-ce que vous pouvez nous dire comment Flaubert a nourri son rêve d'Orient avant de faire son grand voyage sur place ?
Oui, il a beaucoup rêvé de l'Orient avant de partir. Flaubert se forme dans les années 1830, c'est-à-dire en pleine période romantique et dans la grande période de l'orientalisme pictural. Ce sont des années qui sont aussi marquées par ce qui s'est passé antérieurement, par l'expédition de Bonaparte, puis par la guerre de libération des Grecs qui se libèrent du joug ottoman. Byron est même parti pour aider les Grecs, il est mort à Missolonghi. Hugo a publié Les Orientales, un recueil de poèmes qui fascine Flaubert et un recueil qui évoque la guerre d'indépendance des Grecs. Donc il faut resituer la jeunesse de Flaubert dans ce contexte. L'orientalisme pictural, donnant quelques noms, c'est Delacroix. Delacroix que Flaubert admire, c'est Gabriel de Caen, c'est Chassériau. C'est aussi un peintre que nous avons un peu oublié, mais qui était très connu à l'époque, Marilla. Et Flaubert découvre, peut découvrir aussi l'Orient comme ses contemporains dans les nouvelles revues illustrées. En effet, à partir de 1830 est publié le magazine pittoresque et puis ensuite l'illustration. On peut y lire des reportages de voyageurs accompagnés de dessins qui représentent la végétation orientale, les monuments de l'Orient jusqu'en Inde et également les populations. Alors tout cela fait bien sûr rêver le jeune Gustave Flaubert avant son départ. Et on le voit bien dans ses œuvres de jeunesse, dans Mémoire d'un fou d'abord, dans Novembre également, et puis dans sa correspondance. Alors il rêve de bayadères, il rêve par exemple d'une bayadère dont les bras se déplient comme les serpents. Par la suite, Salammbô dansera vraiment avec un serpent et il passera donc de la comparaison à la scène très figurative qui va marquer toute la fin du XIXe siècle, les peintres qui vont beaucoup représenter cette scène de Salammbô dansant érotiquement avant le serpent. Alors évidemment, quand il arrive en Orient, il a d'abord le sentiment de retrouver des paysages, de retrouver des costumes, parce que de surcroît, il a lu la Bible et il était passionné également par la peinture vénitienne qui a beaucoup représenté l'Orient biblique. Et il a l'impression de retrouver cette antiquité biblique en arrivant en Orient. Mais très vite, au fur et à mesure qu'il descend le Nil vers la Nubie, il rencontre des populations de plus en plus étonnantes, qui sont très peu marquées par la civilisation ottomane et encore moins par l'occidentalisation que malheureusement Flaubert remarque dans les villes d'Égypte, au Caire, et puis qu'il remarquera encore plus à Constantinople, ce qu'il regrette, l'Occident qui envahit culturellement et qui colonise l'imaginaire oriental. Flaubert le regrette. Alors évidemment, il est fasciné par la Nubie, qui est donc très très différente, et à ce moment-là, son regard devient vraiment le regard d'un ethnologue avant la lettre. Alors je dis avant la lettre, ou presque avant la lettre, parce que l'ethnologie est une science naissante et encore relativement balbutiante au milieu du XIXe siècle, lorsque Flaubert est en Orient en 1849, de 1849 à 1851. Et le regard de Flaubert est très particulier, il ne ressemble pas...
Justement, c'est peut-être ça qui est intéressant dans vos travaux, c'est que vous montrez qu'il y a beaucoup d'écrivains orientalistes, Flaubert en est un, et en quoi est-il différent des autres?
Alors justement, par son regard d'ethnographe, très différent de celui de Lamartine ou de Chateaubriand ou de Nerval. Nerval, par exemple, dit à un moment dans son voyage qu'il ne veut pas représenter des femmes noires parce qu'elles se prêtent peu à l'idéal. Flaubert ne s'arrête pas du tout à cela. Il représente ce qui peut paraître laid ou sale, même à un regard d'occidental, pourvu que ce soit typique et intéressant d'un point de vue ethnographique. Et c'est là, je dirais, l'une des grandes caractéristiques de son voyage, qui le démarque vraiment des autres récits du XIXe siècle.
Alors, Flaubert a rêvé d'Orient, vous nous l'avez dit, par les artistes, par les autres, avant de s'y rendre lui-même. Et après, dans un jeu de retour, ce sont ses propres textes qui vont en faire rêver d'autres et nourrir l'imagination des artistes. Je pense par exemple à Salammbô, à Hérodias, à la Tentation de Saint-Antoine.
Oui, tout à fait, il va faire rêver les écrivains de la fin du XIXe siècle. Et dès 1884, d'ailleurs, Huysmans, dans À rebours, le personnage principal des Essaintes rêve à la fois sur Salammbô et également sur Gustave Moreau. Parce qu'en effet, à la fin du XIXe siècle, on a souvent rapproché L'imaginaire flaubertien de ses œuvres, Salammbô, La Tentation de Saint-Antoine et Hérodias, de l'imaginaire de Gustave Moreau, qui était d'ailleurs un peintre que Flaubert appréciait. Et Gustave Moreau, dans l'autre sens, appréciait Flaubert et tout particulièrement Salammbô. Alors Flaubert a également marqué Robert de Montesquieu, qui publie même un recueil de poèmes sous le titre du chef des odeurs suaves. C'est un titre qu'il emprunte à Flaubert, à Salammbô plus précisément, où vous trouvez un personnage qui porte ce nom, le chef des odeurs suaves. Et puis bien sûr toute la peinture de la fin du XIXe siècle. Non seulement donc Gustave Moreau, les Salomé de Moreau semblent parfois inspirés de certaines descriptions de Salammbô, et puis bien d'autres peintres de la fin du siècle, Karl Stratmann, etc.
Alors les images nous manquent, mais nous pouvons les retrouver dans votre livre que vous dédicacerez à la sortie dans la librairie de l'Institut de France, Les Immortels. Vous y retrouverez également Yvan Leclerc. Nous allons maintenant parler d'une autre édition importante de cette année 2021. C'est le cinquième volume des œuvres complètes de Flaubert dans la bibliothèque de la Pléiade. Anne Herzberg-Pierrot, vous avez contribué à ce travail. Et ce qui vous semble important, d'une façon plus particulière dans l'apport de ce nouveau volume, c'est le travail autour de Bouvard et Pécuchet, qui est désormais disponible en version complète, dans son intégralité. Pourriez-vous nous rappeler, pour commencer, le projet de Flaubert dans ce livre inachevé, Bouvard et Pécuchet, qu'il n'a pas pu terminer puisqu'il est mort en 1880?
Oui, Bouvard et Pécuchet est un roman, le dernier roman de Flaubert, qui laissait inachevé. Il est moins connu que Madame Bovary, mais de lecture tout à fait jubilatoire. C'est un roman qui a fasciné des écrivains comme Proust, comme Joyce, encore Queneau ou Borges. Et nous avons publié ce roman, Jacques Neffs, ici présent, et moi-même, récemment dans la Pléiade. Et nous l'avons publié en continuité avec La Tentation de Saint-Antoine, dont Bouvard et Pécuchet devaient être la contrepartie comique. Et c'est important parce que nous avons essayé de souligner, justement, par l'annotation, par le commentaire, les liens profonds qui sont établis entre ces deux textes, qui sont à des époques très différentes, puisque La Tentation de Saint-Antoine se passe au IVe siècle de notre ère, alors que Bouvard et Pécuchet commencent dans les années 1840. Là, ils ont une profonde unité dans la lutte contre les violences et les usages de la pensée dogmatique, chacun de son côté. Et nous avons essayé de marquer les échos entre les deux romans.
Alors, que trouve-t-on dans ce deuxième volume de Bouvard et Pécuchet qui était jusque-là très peu accessible?
Voilà. Alors, il faut d'abord rappeler, puisque c'est un roman qui est moins connu, que Bouvard et Pécuchet comprend deux parties. Une première partie qui est consacrée à la rencontre de Bouvard et Pécuchet, qui sera lue tout à l'heure, et puis ensuite à leur décision de partir en retraite à la campagne, dans une petite ville imaginaire de Chavignol en Normandie, et ils explorent tous les savoirs de leur temps, de l'agriculture aux sciences, à la littérature, l'histoire, la philosophie, la religion. Et en fait, cette succession est héroïcomique, parce que à chaque fois c'est un ratage, et à la suite de ces ratages et de l'hostilité des notables qu'ils ont rencontrés, ils découvrent la belle idée qui est celle de copier, non pas comme autrefois comme ils étaient copistes, mais de se mettre à copier, et on arrive à ce que Flaubert appelait ce second volume, ou une seconde partie, qui comprend, donc après les 10 premiers chapitres, un chapitre 11 consacré à la copie de Bouvard et Pécuchet, et puis le chapitre 12 fait une sorte de conclusion et qui se termine magnifiquement sur la vue de dos des deux écrivains copistes qui continuent de façon indéterminée. Et donc ce second volume nous l'a laissé à l'état de chantier par Flaubert, comprend des citations qui devaient être prélevées dans les auteurs précédemment lus, et aussi le dictionnaire des idées reçues. Et ce que peut avoir de nouveau notre édition de la Pléiade, qui est une édition papier, c'est d'une part de donner toute sa place à ce second volume, à ces documents, mais surtout de montrer le lien structurel, organique, entre les premiers chapitres et puis ces documents qui sont en fait, qui font partie du projet vengeur de Flaubert contre la bêtise. Et on y voit des échos, alors entre c'est les extraits des auteurs précédemment lus, le dictionnaire des idées reçues et puis le premier volume.
Parce que ce sont presque des collages d'une certaine façon, on y trouve des articles de journaux, des réclames publicitaires, des faire-part.
Voilà, alors nous ne savons pas bien sûr comment Flaubert aurait édité ce volume, mais ce qu'il y a de fascinant dans ces documents, c'est qu'ils présentent en contiguïté des citations copiées, des lettres manuscrites, mais aussi des imprimés, des extraits d'articles, beaucoup de publicité, ce qu'on appelait à l'époque des réclames, et dont Bouvard et Pécuchet d'ailleurs s'afflige de les voir dans leur journal quotidien. Et je dois rendre hommage au travail remarquable de composition typographique de la Pléiade qui a restitué l'hétérogénéité de ces documents dans une sorte de collage effectivement qui pré-surréaliste, qui rappelle le collage de Nadja ou d'autres romans surréalistes. Alors évidemment, on ne sait pas comment Flaubert l'aurait publié, mais c'est tout à fait étonnant de voir cette juxtaposition de documents.
En tout cas, c'est une façon pour lui d'aborder des sujets très contemporains, la presse, l'opinion, les statistiques par exemple.
Oui, alors cette machine de guerre contre la bêtise se repose essentiellement sur un montage critique des documents montrant les contradictions entre les citations, mais aussi des éléments tout à fait amusants comme ces contradictions entre les statistiques sur la durée de décomposition des cadavres. Alors effectivement, il faut apprécier l'humour noir et l'humour de l'absurde, mais c'est tout à fait ça. Et puis l'actualité de ce dossier dont fait partie le dictionnaire des idées reçues, c'est cette façon dont Flaubert souligne les dogmatismes, l'aplomb des énonciations, l'arrogance et surtout la façon dont on peut affirmer de façon très, très abrupte des vérités non prouvées, l'opinion des majorités. Et puis, ce que montre Flaubert, c'est la prédominance d'une pensée commune des majorités contre les écrivains, contre les romans et les enthousiasmes populaires et cette circulation des idées reçues.
Ce livre, Bouvard et Pécuchet, a marqué les intellectuels des années 60 à 80, par exemple Barthes, Bourdieu, Foucault. Est-ce que, rapidement, vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'ils ont trouvé dans cette œuvre ?
Ils ont découvert, chez Flaubert, une poétique du roman qui se démarquait des romans précédents. Et il y a à la fois cette façon dont l'écriture, la prose, peut porter un monde, représenter des savoirs. Et ce qui est fascinant, c'est la façon dont, dans les années 70, dans cette effervescence théorique des sciences humaines, Flaubert a pu intéresser des gens aussi différents que Roland Barthes, qui était tout à fait intéressé par le rapport de Flaubert à la bêtise et la façon dont on ne peut pas s'opposer à la bêtise, mais il faut être considéré qu'on peut soi-même dire des bêtises. Et puis des gens aussi différents, des philosophes aussi différents que Michel Foucault, qui a retenu la parenté de la Tentation de Saint-Antoine et de Bouvard et Pécuchet comme des livres nés de la bibliothèque, ou bien Bourdieu qui s'est attaché à la représentation de l'éducation sentimentale. Et des gens aussi différents ont participé à ce mouvement théorique, et je crois que c'est important de voir comment Flaubert, dont la lecture est vraiment inépuisable par sa capacité à créer un roman autonome, mais aussi à penser sur son siècle, est actuel de nos jours. Et je pense que tout ce qui se passe actuellement avec les réseaux sociaux, les fake news et tout ça, ce sont des choses que Flaubert a anticipées en lisant la presse de son temps, et aussi en soulignant la circulation des idées reçues.
Alors, ce sujet est abordé dans un livre que vous avez dirigé, qui s'appelle Flaubert et le moment théorique, et qui est paru aux éditions du CNRS, et c'est un ouvrage collectif.
Oui, et que j'ai co-dirigé avec Pierre-Marc de Biasi.
Voilà. Nous avons parlé donc du monde de la recherche, de l'actualité éditoriale. Pour conclure, ce serait intéressant de parler des politiques qui sont vraiment à destination du grand public, notamment en matière de lecture. C'est ce qui s'est passé dans le département de Seine-Maritime, dont vous êtes le président, Bertrand Bélanger. Et vous avez choisi de profiter de cette année Flaubert pour vraiment mettre cet écrivain à l'honneur dans vos politiques culturelles.
Merci beaucoup. Vous me permettrez juste, avant de répondre à votre question, de remercier très sincèrement M. Darcos, chancelier de l'Institut, de nous accueillir aujourd'hui, quelques heures avant ces 4 heures du matin du 12 décembre, pour fêter effectivement ce bicentenaire de la naissance. J'en profite également pour saluer les membres, ils sont nombreux ici, de l'Académie de Rouen, l'une des plus anciennes académies de province, fondée à la fin du 18e siècle à Rouen. Merci d'être ici. Oui, pour répondre à votre question sur les politiques de lecture publique, il y a là aussi comme un clin d'œil au moment où nous entrons dans la lecture publique, grande cause nationale. Donc nous avons profité avec Catherine Morin-Desailly, avec les collectivités, toutes celles et tous ceux qui ont construit ce bicentenaire, pour porter effectivement des actions en matière de lecture publique, dont je rappelle qu'elle est une compétence obligatoire des départements. Donc en matière de lecture publique, en effet, je citerai quelques opérations que nous avons menées
quelques
ensemble,
exemples.
Quelques exemples, voilà. On a souhaité, par exemple, avec nos collégiens, vous savez que les collèges relèvent des départements, nous avons souhaité mettre en place une action de médiation à travers des carnets de création. Ça a mobilisé environ 600 collégiens autour de la correspondance entre Gustave Flaubert et George Sand. Et ces actions, à travers ces carnets de création, étaient très intéressantes parce que les collégiens ont pu se mobiliser de façon extrêmement surprenante pour voir toute la modernité de cette correspondance entre Gustave Flaubert et George Sand. Nous allons poursuivre sur cette année 2022, et nous souhaitons évidemment pouvoir obtenir la labellisation de la lecture publique grande cause nationale autour de ça, et on souhaiterait pouvoir mobiliser plus d'un millier de collégiens. Je pourrais parler aussi de notre festival Terre de Parole, 70 manifestations qui se sont déroulées sur le territoire de la Seine-Maritime, avec en particulier une superbe manifestation à Jumièges pour initier. Aussi, quelques projets que nous allons mettre en œuvre dans le cadre de la lecture publique sur un jeu intergénérationnel entre nos collégiens, les utilisateurs naturellement de la lecture publique dans le cadre des médiathèques, et nos résidents dans les EHPAD. Sans oublier, bien évidemment, le travail autour de la bibliothèque numérique des collégiens, à destination tout particulièrement de nos collégiens qui sont confrontés à des syndromes 10.